Radio Okapi.
À la présentation du journal, Pascal Masserica. Okapi.
Les titres ce soir, le secrétaire général de l'ONG Journaliste en danger dénonce les restrictions contre certains médias de Kinshasa. Tivis Tivoadi qualifie cette situation de honteuse pour la RDC. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende parle de mesures conservatoires, ces médias ayant relayé des appels à la destruction. Bagarre rangée à l'arme blanche entre détenus militaires et civils mardi soir à la prison de Bounia. Le bilan fait état de 152 blessés de part et d'autre. Rencontre ce matin entre le gouverneur de la province orientale et les communautés d'Ango et les Mbororo. Au menu, la sélection des sites et l'identification de ces éleveurs Mbororo qui vivent à couteau tiré avec les paysans autochtones. Bonsoir à tous. En coupure des signaux des médias de Kinshasa, l'ONG GED, Journaliste en danger, dénonce la prise en otage de la liberté d'information à Kinshasa. C'est le titre du communiqué publié aujourd'hui par cette ONG de défense des droits des journalistes. Et à ce propos précisément, Journaliste en danger dit condamner la furie des autorités de la RDC ayant conduit à la coupure des signaux de Canal Kin Télévision, de la radio-télévision catholique Elikia, la connexion Internet ainsi que la suspension du service de messagerie téléphonique. De son côté, le gouvernement congolais estime que ces mesures ont été prises pour garantir les droits qui étaient menacés par des messages qui ont été relayés par ces médias. Explication d'Agathe Mpona Elema.
L'ONG Journaliste en danger qualifie ces mesures de dérive totalitaire que rien ne justifie. Son président Tivis Tivoadi affirme qu'il s'agit ni plus ni moins d'une situation inacceptable pour une république dite démocratique.
Il s'agit simplement d'une dérive totalitaire qui est inacceptable pour un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous dénonçons vigoureusement ces restrictions et nous demandons aux autorités congolaises de mettre fin à cette situation honteuse, place la RDC au banc des nations civilisées.
Le ministre des médias de son côté explique que ces médias ont relayé des appels à la destruction et des menaces au bon fonctionnement des institutions, d'où la prise de ces mesures conservatoires.
Il faudrait que l'on saisisse aussi que le gouvernement a la responsabilité de garantir tout un ensemble de droits. Le droit à la vie des Congolais qui a été menacé par des appels au pillage, des appels à la destruction qui ont été relayés par les deux médias contre lesquels les autorités administratives ont pris des mesures conservatoires.
Il ajoute d'ailleurs que plusieurs autres médias de l'opposition continuent de fonctionner librement. En tant qu'organe de régulation, le CESAC affirme suivre le déroulement de ce qui se passe sur la scène médiatique et promet de réagir au moment opportun.
Et puis, les manifestations liées à la modification de la loi électorale font encore parler d'elles. La MONUSCO affirme être en contact avec les autorités congolaises pour faire le point sur toutes les arrestations opérées. Au cours de la conférence hebdomadaire de l'ONU, tenue ce mercredi à Kinshasa, le numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations à l'est du pays a indiqué que la mission onusienne plaidait pour un déferrement des personnes qui ont été arrêtées devant les instances judiciaires. Le général Abdallah Wafi, dans ce propos recueilli par Agathe Mpona Elema.
Nous sommes en contact avec toutes les autorités pour faire le point de toutes les arrestations qui ont été opérées. À cet égard, je peux vous dire, pour le cas spécifique de Christopher Ngoï, nous l'avons soulevé, il est détenu et il sera présenté aux autorités judiciaires. Nous avons demandé aux autorités congolaises de procéder au déferrement de toutes les personnes qui ont été arrêtées s'il y a des charges pour qu'elles puissent bénéficier de procès libres, équitables et de droit de se défendre à une défense pour leur cas. À cet effet, vous avez dû suivre la déclaration du ministre Mende concernant le cas spécifique de Christopher Ngoï. Il est actuellement devant le procureur par rapport aux charges qui lui sont retenues.
J'ajoute qu'au sujet du bilan des récents événements à Kinshasa, la MONUSCO affirme mener en ce moment des investigations afin de publier un rapport suffisamment documenté. On reste dans ce chapitre pour dire que la Cour suprême de justice a décidé de se saisir du dossier Vital Kamerhe contre Madame Wivine Moleka. Dans un arrêt qui a été rendu ce mercredi à cette Cour, le dossier est envoyé à sa section judiciaire pour une étude approfondie. Les avocats de Vital Michel Caméry, qui assistait à cette audience ce matin, pense que justice sera faite afin que cette affaire soit définitivement close. Ses avocats attendent de cependant les notifications de la décision pour connaître les détails sur les motivations de la Cour suprême de justice. Retour sur les péripéties de cette affaire dans ce reportage de Jacques-Yves Molima.
Les avocats de Vital Caméré s'attendaient, dit-il, à ce que le dossier soit déclaré irrécevable par la Cour. Et cela d'autant plus que, d'une part, le lundi dernier, l'avocat de Wivin Moleka, le bâtonnier national le Mata Diwamba, appelait au respect de la procédure et demandait au juge de renvoyer cette cause devant le juge naturel, qui est le tribunal de grande instance de la Gombe. Et d'autre part, le même lundi, les avocats de Caméré évoquaient que les deux parties avaient conclu en décembre 2013 une transaction dans laquelle Wivin Moleka avait renoncé à toute action judiciaire. Mais en ce jour, sur base du réquisitoire de pourvoi en cassation introduit par le procureur général de la République sur injonction de l'ancien ministre de la Justice, la Cour vient de décider, selon l'arrêt rendu ce mercredi, que Vital Caméré soit directement jugé devant la Cour suprême de justice en premier et dernier ressort. Mais les avocats de Caméré ne désarment pas. Maître Mukendi wa Mulumba.
Nous attendons la notification de cette décision pour voir les détails de la motivation, examiner les voies et moyens que nous pourrons utiliser en droit pour pouvoir rétablir le droit.
Et Maître Mukendi de s'étonner de la célérité dont bénéficie ce dossier.
L'affaire prise en délibéré avant-hier, la décision est rendue aujourd'hui. Nous souhaiterions que pour tous les justiciables, il en soit de même.
Entre-temps, l'affaire est envoyée en étude à la section judiciaire de la Cour suprême de justice.
Merci de nous écouter à Nyakasanza et à Muzipela où il est 19h06. En Ituri, pendant 7 ans, des émeutes ont éclaté mardi soir jusque ce matin dans l'enceinte de la prison centrale de Bounia. Sur place, des détenus militaires et civils se sont affrontés à l'arme blanche. Le bilan fait état de 152 blessés selon l'infirmerie de cette maison carcérale. Et pour maîtriser la situation, des coups de feu ont été tirés par les forces de l'ordre. À Bounia, le récit de José Deschartemenga.
Un premier groupe de prisonniers affirme qu'il est victime de mauvais traitements de la part de ce qu'ils appellent le gouvernement de la prison. Il s'agit d'une administration interne aux prisonniers dirigée par un capitaine général. Ce groupe estime qu'il est maltraité par rapport aux autres prisonniers. Les relations se sont donc dégradées progressivement entre les deux groupes sans que l'administration pénitentiaire ne s'en rende compte. D'un côté, il y a des détenus militaires et policiers et de l'autre, des détenus issus des groupes armés tels que la FRPI et les Mai Mai Simba de Morgan, chacun s'attirant la sympathie de tel ou tel groupe de civils. Le pire est arrivé hier la nuit quand le groupe d'ex-miliciens a attaqué à coups de pierre l'autre groupe. Le dortoir des détenus militaires a été incendié tôt le matin. Près de 100 militaires, policiers et casques bleus de la MONUSCO se sont déployés sur les lieux. Il a fallu l'arrivée sur place du général Jean-Pierre Bongwangele, commandant de la 32e région militaire, pour que les autorités pénètrent dans la prison pour constater les dégâts. Sur les 152 blessés, il y a 8 graves, 1 fracturé à la colonne vertébrale et 4 sont inanimés. Le calme est revenu vers 11h, tandis que quelques blessés sont évacués progressivement dans les hôpitaux. Bounia, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, le groupement de Walowa-Uroba continue de se vider de ses habitants à 90 km à l'est de Walikale. Selon le chef du secteur de Wanyanga, cette entité est devenue quasiment le bastion de 4 groupes armés commandés par le chef d'une faction des Raia Mutomboki. Et pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Denyangi.
La situation dans le groupement Walowa-Uroba s'est le plus dégradée après les opérations des FARDC contre les groupes armés sur les axes Walikale-Goma et Walikale-Ombo les mois de novembre et décembre dernier. Plusieurs combattants d'autres groupes armés comme Kifuafua, NDC de Sheka, MAC et FDC Guide ayant fui ces combats se sont tous réfugiés en Toto pour se joindre au groupe Mai Mai Raia Mutomboki d'un certain Janvier Bissiri. Conséquence? Depuis le début de ce mois de janvier, des exactions contre les civils s'accroissent dans cette entité, obligeant les habitants à fuir le milieu. Le Mwamikiro Bamulengezi, chef du secteur Wanyanga, plaide pour le déploiement urgent des FARDC dans ce secteur.
Le village d'Ntoto, Biamba, Mwanga, Binkuse et Biholo sont vides. Les habitants ont fui les uns vers Masisi et les autres vers Walowa Yungu. Ces hommes armés ont incendié entre le 15 et le 20 janvier une dizaine de maisons à Ntoto. La solution durable reste tellement le déploiement des FARDC dans cette zone.
L'administrateur du territoire de Walikale, qui ajoute que cette zone est complètement coupée de toute autorité de l'État, affirme avoir déjà formulé cette demande de déploiement des FARDC dans cette zone et qu'elle attend seulement la réponse de la hiérarchie militaire au niveau provincial. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Province orientale pour finir, c'est depuis hier soir qu'une délégation mixte gouvernement provincial et des délégués de la MONUSCO séjournent à Ango. Ce matin déjà, le gouverneur et le président de la commission dite Mororo a conféré avec les communautés locales et les représentants de ces éleveurs. Le compte-rendu de Jacques Moukonkolé.
Il s'agit d'une rencontre d'évaluation de la situation sécuritaire dans le territoire d'Ango. Le coordonnateur de la commission Boro et ses collaborateurs vont recueillir des informations nécessaires en vue de la sélection des sites et l'identification des éleveurs Mbororo. Des fiches irrelatives seront élaborées. Après recensement et identification, les Mbororo seront par la suite cantonnés temporairement dans ces sites avec leurs troupeaux. Mais bien avant cela, un rapport détaillé sera transmis par la commission au ministère de l'Intérieur. Ce dernier pourra à son tour contacter les pays de provenance de ces Mbororo sous le couvert de l'Union africaine et des Nations unies en vue du rapatriement éventuel des éleveurs dans leur pays d'origine. Toutes ces dispositions sont arrêtées dans le cadre de la protection des civils. En effet, les relations ont toujours été tendues entre ces éleveurs et les paysans. Ces derniers se plaignent toujours de la destruction de leurs champs par les vaches des Mbororo. Arrivés dans le territoire d'Ango dans les années 2002, les Mbororo sont estimés dans cette entité à plus de 5000 personnes, selon l'administrateur Jean-Pierre Moulengue. Celui-ci précise que chacun d'eux détient en moyenne 3000 têtes de bétail. Ils sont dispersés actuellement dans une dizaine de villages du territoire d'Ango, notamment Bamela, Mulundo, Dakwa, Banda, Ngalou et Kapilo. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
C'est la fin de votre journal. Madame, messieurs, merci infiniment de l'avoir écouté. Okapi, Okapi, Radio Okapi.